Chapitre 62. Minuit. Des voitures de police, de civils et une fourgonnette de Ligy stationnaient sur le parking détrempé. Un gyrophare trouait la nuit, ajoutant une teinte dramatique au décor. L'orage était passé, emportant la furie des dernières heures. Ne demeurait que la rumeur de son grondement, perdu dans les profondeurs célestes. L'horreur, elle, restait, imprégnée dans le béton, partout. La stupéfaction se lisait sur les visages des équipes arrivées sur place, des femmes et des hommes pourtant aguerris qui, dans leur carrière, pensaient avoir déjà tout vu et qui, cette fois, peinaient à faire leur travail. Pascal Robillard était accroupi dans l'ascenseur, en train de décrire l'impossible dans un dictaphone. Les traits tirés, le procédurier coupait régulièrement l'enregistrement, histoire de sortir dans le couloir pour respirer. À l'étage au-dessus, des techniciens collaient des étiquettes sur les morceaux de corps de Victor. D'autres, masqués et en combinaison, poussaient des chariots de mort pour pouvoir effectuer des prélèvements. Le directeur du centre, Michel Brouet, avait pu être identifié grâce à l'organigramme affiché dans la partie administrative de l'établissement. Deux brigadiers étaient allés le chercher à son domicile pour le ramener ici. Il avait le même teint que les Maccabées avec lesquels il travaillait. Proche de la soixantaine, des valises sous les yeux, l'homme était fringué à l'ancienne, pull en jacquard et pantalon en velours côtelé.
Ce casier, c'est celui de Stéphane Tranché, le chef préparateur. C'est effroyable. Je n'arrive pas à y croire.
Après avoir découvert le contenu du compartiment en métal, il s'assit sur un banc du vestiaire, sous le choc. Sur sa gauche, la chemise à carreaux et le jean pendaient encore. Toutes les lumières étaient désormais allumées, et elles émettaient un grésillement désagréable. Dans les couloirs, on percevait des voix, des exclamations, des bruits d'objets qu'on déplaçait. L'homme releva la tête vers Franck et Lucie.
« Ça ne fait qu'un an que je suis en poste. J'étais employé auparavant aux services généraux de la fac. J'ai hérité de ce merdier. On ne peut pas l'appeler autrement. Comme l'ont fait mes prédécesseurs, je n'arrête pas de lancer des alertes sur l'état des locaux et des chambres froides, de dénoncer des comportements inadaptés auprès du président de l'université, mais autant parler à un sourd. Tout ce que j'ai récolté, ce sont des menaces et des intimidations. »
« Provenant de qui ?» Il désigna les casiers du menton.
« Tranché. C'est lui qui fait la loi ici, à un point tel qu'une partie du personnel a peur de monter à cet étage. Tranché s'occupe de gens qui passent leur journée à découper des corps dans des conditions déplorables. Comment voulez-vous que j'aie une quelconque emprise sur lui ?»
Franck voyait Lucie en train de renifler l'air. De son côté, il ne sentait plus les odeurs qui devaient pourtant imprégner ses vêtements jusqu'à la dernière fibre. Même une douche ne suffirait pas. Il faudrait y aller au Karcher.
La victime, Marc Victor, vous connaissez ?
De nom. Il travaille à l'Institut du cerveau, il me semble.
Travaillait. Il n'est pas prêt d'y retourner.
Je n'en reviens pas qu'il ait pu lui faire subir une chose pareille. Tranché n'est pas fréquentable, mais de là à commettre ce genre de crime odieux.
Charcot lui colla son portable sous le nez.
Et elle, son visage vous dit quelque chose ?
L'homme observa le portrait, secoua la tête.
Elle s'appelle Emma Doty, expliqua le policier. Ce Tranché l'a probablement aussi assassinée et débitée entre vos murs. Son col du fémur a été livré au laboratoire OGT à Clamart, avec un certificat de décès qui n'était pas le sien, mais celui d'un autre cadavre de votre centre. Expliquez-nous comment c'est possible. »
Michel Brouet tenta d'assimiler l'avalanche de mauvaises nouvelles. Il ressemblait à un paquet de cartes jetées au vent en pleine tempête.
« Je vous jure que je... »
Il bafouillait, ses mains tremblaient. Il respira un bon coup et se ressaisit.
« Je vous jure que j'ignorais tout ça. Quand les corps arrivent, on leur attribue un numéro d'identification unique. On...
Qui ça, on ?
Un gestionnaire chargé des entrées.
Ce numéro, il est ensuite...
Le directeur eut soudain une absence. Charcot se demanda s'il n'allait pas lui claquer dans les pattes. Puis l'homme retrouva ses esprits.
« Pardon, » continua-t-il. « Il est ensuite fourni au chef des préparateurs. C'est lui qui le transmet à ses subordonnés, et ces derniers vont à leur tour le noter pour chaque partie issue du corps dont il s'occupe, soit sur un bracelet, soit sur le conteneur lorsqu'il s'agit de pièces anatomiques spécifiques.
Donc, absolument rien ne les empêche d'intervertir des numéros sans que vous le sachiez, » conclut Lucie.
« Rien, en effet. »
« Ok. Parlez-nous de lui, Stéphane Tranchet. »
Regard vide, Brouet fixait le casier sans le voir.
« Il manage 5 personnes et travaille lui-même sur les dépouilles. C'est un homme qui est aussi à l'aise au milieu de tous ses morts qu'un chef peut l'être dans sa cuisine. Je suis complètement désemparé. Comment on peut en arriver là ?»
Dans un soupir, il fouilla ensuite dans son portable et tourna l'écran vers les policiers.
« C'est une photo de lui. On en trouve une ou deux sur Internet, tranchée sur des forums de collectionneurs d'armes à feu, une de ses lubies. »
Le type avait la cinquantaine, les cheveux très courts, coupe militaire et une clarté hostile dans les yeux, comme un éclat d'obus incrusté sur ses iris noirs. Vu la carrure, les policiers comprenaient la peur du personnel. Un vrai menhir, pas le genre de gars à qui on avait envie d'aller se frotter.
Ça doit faire près de 30 ans qu'il est salarié ici. Il fait partie des murs, en somme. Difficile en revanche de vous en dire plus, je ne suis pas là depuis suffisamment longtemps. Il faudrait interroger mes prédécesseurs ou alors directement ses collègues. Mais même eux, je ne suis pas certain qu'ils puissent vous renseigner davantage. En un an, j'en ai vu 2 démissionner. Tranchés leur mener la vie impossible. Les plus jeunes ne tiennent pas 6 mois.
Charcot imaginait sans mal l'ambiance. Il pointa les autres casiers du doigt.
« Vous avez un double des clés ?»«
On doit avoir ça quelque part, oui. »«
Allez les chercher, s'il vous plaît. »«
Maintenant ?»«
Oui, maintenant. »
Franck demanda à Lucie de les attendre là et accompagna le directeur. 5 minutes plus tard, il revenait avec un trousseau. Les policiers explorèrent les casiers un à un. Des fringues pliées, des objets personnels, genre couteau suisse, médailles, dessins d'enfants. Rien de suspect. Peu probable que le 3e homme fasse partie des effectifs, mais il faudrait vérifier quand même. Au cas où, Charcot montra également le sigle qu'ils avaient repéré sur les pulls ainsi qu'à l'abattoir. Le directeur ne l'avait jamais vu.
Où est-ce que Tranchet habite ?
Pas très loin, à côté de Pont-Sainte-Maxence. Je peux vous communiquer son adresse exacte si vous le souhaitez.
Je veux bien, merci. Et restez à la disposition de mes collègues. On va récolter toutes les informations pour contacter et interroger vos employés. Vous êtes responsable de cet établissement et des gens qui y travaillent. Avec ce qui s'est passé, vous vous doutez bien qu'il va falloir que vous rendiez des comptes.